Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Christian Macarian, troisième partie. Alors, sur la politique, vous y avez déjà fait allusion. On a juridicisé, dans le fond, une partie des consignes, je dirais, du Coran interprétées par les religieux. Dans ce qui concerne la politique, Jésus, finalement, prône la séparation de l'Église et du pouvoir en disant notamment que César s'occupe de ce qui concerne César et que
l'Église... Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Attention. Par contre, pour le Coran, Dieu est dans tous les aspects de la société humaine.
Et oui, encore une fois, ça renvoie au titre du livre « Le choc Jésus-Mahomet » et non pas « Le choc islam-christianisme », parce que là encore, on retomberait dans le piège du choc des civilisations. Je dis « Jésus-Mahomet » parce que l'héritage de Mahomet, ce qu'on appelle l'islam depuis la mort de Mahomet, découle de l'expérience de vie personnelle de Mahomet. Or, Mahomet a été prophète et souverain. Il a été à la fois l'interprète de Dieu, le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, mais aussi un homme qui, sans prendre le titre de roi, ni de président, ni de dictateur, mais un homme qui a concentré entre ses mains la totalité des pouvoirs de la cité de Médine, alors devenu un véritable petit État, un État précisément théocratique. Mahomet en était le souverain. Il avait le pouvoir budgétaire, le pouvoir financier, le pouvoir militaire, le pouvoir politique, le pouvoir légal, législatif, le pouvoir religieux, et en plus, il recevait des révélations divines. Cette période de temps-là, encore une fois, si on la contextualise et si on dit que c'était des temps très anciens et révolus, on règle le problème. Mais si on dit que l'islam et la pureté de l'arabisme et de l'islam s'ancrent dans cette expérience-là, dans ce moment-là, dans ce siècle-là, dans cette expérience prophétique-là, comme le font les fondamentalistes encore aujourd'hui, eh bien, on n'arrive pas à éteindre ce feu qui couve en permanence et on n'arrive pas à recontextualiser l'islam ou à opérer une transition entre une phase historique et une phase actuelle. Le propre de l'islam, malheureusement, c'est que son rapport à l'histoire n'est pas encore élaboré de façon claire et nette. L'islam, c'est l'histoire, et l'histoire, c'est l'islam. Puisque Dieu fait tout, décide de tout, l'histoire ne se distingue pas, ne se dissocie pas de l'œuvre divine, donc elle n'est pas entre les mains de l'homme, mais entre les mains de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire le jour où le prophète est décédé, une période s'est éteinte, et puis n'en parlons plus, et faisons des lois maintenant civiles, distinctes de cette expérience-là. Ça n'est pas possible, il y a eu une continuité, parce que c'est toujours la même autorité divine qui décide de tout, celle qui avait donné l'onction à Mahomet, a donné ensuite le souffle et le sens de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Cette interprétation-là, cette philosophie très pauvre de l'histoire finalement, cette non-confiance faite à l'homme n'est pas inhérente à l'islam, mais elle est malheureusement, à l'heure actuelle, l'essentiel de la tradition de l'islam. Il faut que de nouveaux intellectuels se lèvent, et des intellectuels musulmans, j'entends évidemment, et donnent une toute autre interprétation à la notion d'histoire, et qu'ils commencent eux-mêmes à réécrire l'histoire en se libérant des expériences passées, de la tradition, en laissant dans le contexte historique le passé et en écrivant un présent qui serve de base un jour à un futur.
J'aimerais encore vous entendre sur la façon dont Jésus d'un côté et Mahomet de l'autre voit la place de la femme dans la société, dans la famille.
Jésus passe tout son temps avec des femmes, qu'il s'agisse de son ministère, qu'il s'agisse de ses prédications, qu'il s'agisse d'un certain nombre de paraboles, qu'il s'agisse de l'épisode de la résurrection constatée par une femme, la femme est un personnage central. Alors, je mets de côté le personnage de Marie, parce que Marie est une très forte construction ultérieure au niveau des textes, qu'elle a sans doute joué un rôle extrêmement considérable, mais on ne le saura jamais, on ne saura jamais lequel. Mais en revanche, la partie des évangiles concerne sa naissance, la naissance virginale de Jésus, etc. Tout cela, ce sont des écrits, on le sait de source sûre, les plus tardifs à l'intérieur même des évangiles. Hein. Donc, je ne m'appuierai pas sur Marie, qui est un personnage largement théologique, de mon point de vue, pour évoquer la proximité de Jésus avec les femmes. D'abord, Marie est sa mère, et ensuite, je répète, le Magnificat, par exemple, est incontestablement un texte splendide, absolument admirable, mais de portée théologique. Ce n'est pas un texte qu'une jeune fille de 15 ou 16 ans peut prononcer comme ça. C'est trop pur et parfait, c'est trop immense, c'est trop révolutionnaire. Donc, Marie sert, d'une certaine manière, d'habitacle au discours même de Dieu. En revanche, qu'il s'agisse de Marthe et Marie, de Madeleine et d'autres femmes encore qui sont réputées, selon l'Évangile, avoir financé la mission, faire vivre les disciples, on a affaire à un univers tout de même féminin, très présent. Et puis Jésus, regardez l'épisode avec la Samaritaine, va vers les femmes. Il se penche vers elles, etc. Et il n'y va pas de manière classique, masculine. Il y va de manière totalement moderne. Il se penche sur des femmes qui n'ont pas d'existence, n'ont pas de conditions, n'ont pas de noblesse. Il leur donne littéralement un discours, il leur donne une importance et il les fait parler. Dans les évangiles, les femmes parlent, elles dialoguent avec Jésus. Bon.